nous allons parler royauté avec évidemment, bon, nous le savons, le décès de la reine Elisabeth II. On est dans le thème. Bonjour Philippe Morel.
Bonjour Clarence, bonjour les astronomes.
Aujourd'hui, nous allons parler de Charles II et des astronomes royaux.
Et les astronomes royaux.
Ouais.
Mais oui, parce que la reine Elisabeth n'est plus, donc place au roi Charles III, qui a quand même attendu 73 ans avant de trouver un emploi. Et donc son prédécesseur, dans la lignée des Charles, qui était Charles II, qui a vécu entre 1630 et 1685, il a œuvré pour la cause de l'astronomie, parce que d'abord, c'est lui qui est à l'origine de l'observatoire de Greenwich, donc qui a ouvert en 1675 à Londres, et qui est devenu depuis 1880 la référence du temps universel, et depuis 1884 la référence zéro des méridiens, parce que la France a dit « allez-y, à condition que vous passiez au système métrique », chose qu'ils n'ont jamais fait avant un passé très récent. Et pour diriger cet observatoire, Charles II a nommé un astronome royal, qui était John Flamsteed, qui en 1620 était remplacé par Edmund Halley, le fameux de la comète.
D'accord.
Et donc, ce sont des astronomes royaux nommés par les monarques qui ont dirigé cet observatoire successivement jusque 1971, et depuis 1972, en fait, le titre d'astronome royal est un titre complètement honorifique qui récompense une carrière astronomique qui, actuellement, depuis 1995, c'est Martin Rees qui en est détenteur.
D'accord.
Alors, il y a eu des noms très célèbres dans le monde de l'astronomie. Ces noms-là ne vont pas dire grand-chose aux auditeurs, mais pour les gens qui connaissent un petit peu le sujet, des gens comme Bradley, Maskelyne, Airy, ce sont des gens qui ont marqué leur temps et qui ont fait beaucoup pour la recherche astronomique à leur époque.
Ils ont été importants, ces gens-là.
Eh bien oui, ils ont été très importants, parce que Airy, c'est l'un des pères de l'optique astronomique telle qu'on la conçoit encore actuellement.
Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que vous disiez tout à l'heure, la comète d'Halley, on l'appelle... Halley, parce que...
Alors, on l'appelle la comète de Halley, parce que M. Halley s'est dit, mais c'est quand même bizarre, il y a tous les 76 ans, là, à peu près, il y a une grande comète qui apparaît dans le ciel, est-ce que ce ne serait pas des fois le même objet qui revient? Et donc, en épluchant les positions sur les observations antérieures de cet objet-là, il a réussi à remonter jusqu'à l'époque antique, quasiment, et il s'est dit que si c'était le même objet, il reviendrait en fin décembre 1758, début janvier 1759, et le fait est que il est réapparu, sauf que Halley n'a pas eu l'occasion de l'avoir revenir puisqu'il est décédé avant.
Ah zut!
Voilà.
Ça, c'est dommage.
Mais on l'appelle la comète de Halley.
Pour lui rendre hommage.
Voilà, sa dénomination, c'est 1P Halley.
D'accord.
Voilà. Qui est d'ailleurs maintenant quasiment au plus loin de sa course. Dans pas longtemps, il y aura une chronique sur la comète de Halley pour annoncer son retour vers le Soleil, prévu en 2061-2062.
Et ben voilà, fins astronomes, vous serez au courant de tout ce qui se passe pour cette comète dans les prochaines semaines.
Voilà.
Justement, on vous retrouve la semaine prochaine, mon cher Philippe, pour parler des 65 ans de Spoutnik.
C'est cela même.
Merci Philippe Morel.
Merci Clarence.